Bonjour à tous. Il n'y a pas que le 8 mars, parce qu'en une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité. Parce que 24 heures, c'est trop peu pour aborder l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde, l'utilisation de l'image des femmes pour vendre du shampoing, une cuisinière ou une voiture. Nous nous retrouvons en ce début d'année 2019, aujourd'hui. C'est par le magazine belge féministe Axel auquel j'emprunte ces quelques mots. Certaines d'entre nous creusent, labourent, créatrices vigoureuses, elles impriment à la terre sa direction. D'autres utilisent les longueurs, les routes, les liens, tout ce qui serpente pour consolider des espaces épars, pour les allier en nouant autour d'eux, avec eux, une corde ferme. Nous avons besoin de toutes, dit Sabine Panet dans son édito. Parfois nous sommes les deux à la fois. Poursuit-elle. Nous allongeons pendant que les autres œuvrent, nous devons reprendre des forces. Des dangers innombrables menacent la solidarité, l'égalité, la justice, ces valeurs que nous défendons. Nous le savons et nous l'expérimentons tous les jours. Pour faire face aux combats qui viennent, pour gonfler nos poumons dans les luttes où nous sommes engagés, réfléchissons au rôle que nous jouons et ce qui est vital. En ce mois de janvier, dans « Il n'y a pas que le 8 mars », trois rencontres de femmes singulières. Qu'elles creusent, qu'elles serpentent ou qu'elles se reposent, elles nous disent où elles en sont avec leur idée du féminisme. Dominique est retraitée, elle nous raconte ses engagements. Flore et France, elles, enfilent un gilet jaune et nous disent pourquoi. Chloé est la plus jeune. Être féministe, comment ça se vit? Comment ça se traduit au quotidien?
Le portrait.
Les analyses sociologiques que nous lisons nous font penser que la société patriarcale, la société de consommation, les stéréotypes transmis par cette société capitaliste ont forgé l'esprit des enfants et des jeunes qui nous entourent. Le mieux pour nous en convaincre et pour nous en dissuader, c'est d'aller à leur rencontre. Rencontrer et écouter les jeunes lors de nos émissions, c'est mettre côte à côte notre représentation et leur réalité. Faisons connaissance avec Chloé Verret, jeune bachelière 2018, conversation sans aucune prétention autour d'un café.
Bonjour, c'est intéressant d'avoir une lycéenne parce que je pense que quand on parle de féminisme, on voit pas tout à fait la même chose entre quelqu'un qui, voilà, pour lequel l'égalité des droits, par exemple, homme-femme, et la relation entre les garçons et les filles, ça a beaucoup changé. Tu disais qu'au lycée, le mot même féminisme était un petit peu même désuet.
C'est un mot qu'on emploie encore beaucoup aujourd'hui, de manière générale, mais c'est vrai que les relations entre lycéens sont très différentes d'il y a 20 ans, par exemple, je pense. Et aujourd'hui, on essaye, enfin, les filles et les garçons, que ce soit dans la cour de récré ou même à l'intérieur des salles de classe, essayent de se respecter un maximum et parlent des mêmes sujets de la même manière, du moins essayent. Et du coup, je trouve ça que la notion de féminisme pas se perd, au contraire, elle s'accentue parce que les femmes sont mises sur un même pied d'égalité en termes de liberté de parole que les garçons au lycée. Mais justement, c'est parler encore aujourd'hui de féminisme, ça devrait juste être une idée enseignée depuis l'enfance et puis voilà une valeur en fait.
Et si on est en début d'année là, début janvier, donc si on se disait que en France actuellement maintenant il y aurait un thème à travailler parce que c'est pas tout à fait que une idée et qu'il y a encore des inégalités, ça serait quoi la bataille à mener maintenant?
Je pense vraiment que ce serait la représentation de la femme dans sa globalité, donc aussi bien sa façon de penser que sa représentation physique. Je trouve ça très dommage qu'on hypersexualise la femme, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que voilà, faut pas se leurrer. On libère la parole des femmes à ce sujet-là, en leur permettant de s'exposer librement. Sauf que malheureusement, il y a encore des progrès à faire là-dessus. Des censures qui sont faites, par exemple, sur un réseau social, parce qu'on voit le sein d'une femme, une censure qui n'est pas faite sur une photo d'homme, par exemple. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui doit évoluer, le statut de la femme, aussi bien physiquement que dans sa façon de penser et d'être. Sur Instagram, c'est très très fréquent que les règles de, enfin les politiques d'utilisation interdisent en fait de voir par exemple le téton d'une femme sur une photographie, ce qui n'est pas du tout le cas pour un homme. On se retrouve avec beaucoup d'art parce que voilà, les photos qui sont postées sur les réseaux sociaux sont de l'art au même titre qu'une peinture d'un grand artiste. Beaucoup de ces photos sont supprimées du réseau social sans l'accord donc du propriétaire de la photographie. Du coup, on se retrouve avec une censure obligatoire.
Chloé sur Radio B en ce début d'année 2019. Et ce serait quoi le féminisme au quotidien quand on a 18 ans?
Ça passerait d'abord par le fait d'arrêter de me poser des questions de... Par exemple, un truc tout simple, comment est-ce que je dois m'habiller le matin? Pas comment est-ce que j'ai envie, mais comment est-ce que je devrais par rapport au fait que, voilà, si on se balade dans la rue, alors qu'il fait très très chaud en short, on risque de se faire siffler parce qu'on est une fille. Et ça, je trouve c'est important, je trouve que toutes les filles devraient faire ça, parce qu'à partir du moment où on se sent bien dans ce qu'on fait, où on assume ce qu'on fait, ce qu'on porte, ce qu'on dit, ça peut que aller en s'améliorant, même si voilà, ça prend du temps évidemment. Même à l'école, voilà, je sais que bon, je parlais de mon lycée tout à l'heure, je sais que c'est pas du tout pareil dans les autres établissements, en tout cas pas partout. Je trouve c'est important que voilà, plus vous vous comporterez comme des femmes libres qui ont envie de le rester, plus les gens assimileront cette idée-là. Ceux qui sont contre le féminisme, ceux qui sont contre l'égalité d'expression et d'apparence des hommes et des femmes, plus ça rentrera dans leur tête et ils se diront que bah oui, les femmes, au même titre que les hommes, ont le droit de faire ce qu'elles ont envie de faire.
Alors, quand on parle de harcèlement de rue, concrètement, c'est des choses que tu as vécues ou que tu vis avec des amis quand vous êtes dans la rue, un groupe de filles, ou c'est quelque chose dont on parle sans le vivre vraiment?
Malheureusement, 100% des jeunes femmes aujourd'hui ont été victimes d'harcèlement de rue. C'est un fait. C'est quelque chose dont on parle en le vivant, et même si on ne le vit pas, c'est quelque chose dont on est témoin, en fait, malheureusement. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je vis, c'est se balader dans la rue avec une amie ou toute seule, ça reste quelque chose qui est assez compliqué quand on est une fille. J'ai envie de dire que le harcèlement de rue, en fait, aujourd'hui, il est banalisé, parce que voilà, bon, on va avoir un garçon, un jeune homme ou un homme mature dans une voiture avec son enfant à l'arrière, imaginons, donc qui est un petit garçon. Voilà, il voit deux jeunes filles passer et il décide de s'arrêter, de les siffler et après il repart. Bah, le petit garçon, qu'est-ce qu'il apprend? Mon papa fait ça, c'est normal. Et malheureusement, ça fait des décennies que ça se passe comme ça et que voilà, les femmes ne disent rien. Aujourd'hui, je trouve que c'est important qu'on en parle, évidemment, parce qu'on en parle de plus en plus. Mais c'est pas un mythe, c'est vraiment une réalité. C'est quelque chose que les femmes vivent.
À Bourg aussi. Pas spécialement dans les grandes villes.
J'ai même envie de dire que dans les petites villes, c'est plus facile de prendre à partie certaines femmes, de les siffler dans la rue. Ben, je sais que moi, j'habite sur Lyon, mais j'ai grandi sur Bourg. J'ai beaucoup plus vécu de harcèlement de rue sur Bourg-en-Bresse que maintenant que j'habite à Lyon.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'écris rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire un mmh. Où je répolis pour la télé.
Balance ton quoi, chanté par Angèle, c'est la proposition musicale de Chloé. Il n'y a pas que le 8 mars, on discute féminisme au quotidien avec Chloé, une jeune femme de 18 ans.
On parlait donc représentation, égalité, il n'y a pas de raison de parler plus des femmes, des hommes. Il y a des problèmes sociaux quand même qui sont liés aux femmes. Si on parle de prostitution, on est dans quelque chose quand même de voilà où on peut parler de la place des femmes. Quand on est au niveau de la recherche de travail, on peut en parler. Le côté social, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans la tête d'une jeune fille ou alors on n'en est pas là et donc du coup, non, on n'y pense pas du tout?
Bien sûr que si, on y pense, évidemment. Enfin, en plus que c'est... comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui se libère beaucoup, on en parle beaucoup. Et heureusement, il est temps, enfin. Et évidemment, quand on est une jeune femme, si on s'y intéresse pas, c'est sûr qu'on peut décider de ne pas en entendre parler et de vivre avec les clichés d'une société en s'y accoutumant tout à fait. Mais quand on est une femme et qu'on a envie d'un minimum de liberté, on se penche un minimum sur le problème. Et c'est vrai qu'on découvre que voilà, donc vous avez donné beaucoup d'exemples, mais aussi l'égalité salariale. Voilà, même si c'est des choses qu'on n'a pas forcément vécues, aussi bien à mon âge que plus jeune, c'est important de libérer la parole et de montrer que voilà, il y a des inégalités qui subsistent, évidemment, sinon on ne serait pas là en fait à en parler. Et puis il n'y aurait pas des femmes qui militeraient tous les jours.
Tu viens d'utiliser le mot militer. Est-ce que c'est quelque chose qui a une résonance ou du moins qui a une possibilité, un projet possible pour quelqu'un de plus jeune? Moi, j'ai l'impression que le fait de militer, le fait de faire des manifestations à certains moments sur des journées, par exemple, quand c'est la journée contre les violences faites aux femmes, on voit pas de jeunes. Il y a très très peu de jeunes dans les manifestations. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça et comment est-ce que vos générations vont pouvoir faire bouger un petit peu les lignes des choses à faire bouger, comme l'égalité salariale dont tu parles? Avec quels moyens? Le cinéma peut-être ou autre chose? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors oui, c'est vrai. Enfin, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'on voit très peu de jeunes, très peu d'adolescentes aussi qui militent. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus, on estime que militer à notre échelle, c'est déjà faire beaucoup entre guillemets. Parce que évidemment, voilà, les manifestations sur toute une journée, donc par exemple le 8 mars, c'est important. Heureusement que ça existe, heureusement qu'il y a des femmes pour militer ce jour-là. Mais je pense que c'est tellement un combat qui est quotidien quand on a vraiment envie d'une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. C'est un combat qui est quotidien qui passe par des petites choses en fait de tous les jours. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la représentation de la femme. Justement, voilà, un homme qui nous siffle dans la rue, on ose lui répondre, on ose lui dire que c'est pas normal. C'est déjà militer pour moi. Et les femmes qui osent se représenter en tant que femme et non en tant qu'objet, non en tant qu'objet de convoitise ou que représentation uniquement sexuelle ou personne dénigrée, je trouve ça très très important. Et c'est bien qu'il y ait des femmes qui tous les jours militent justement contre ces inégalités. Mais évidemment, voilà, vous parlez de l'inégalité salariale. Ça, c'est un combat qui est aussi quotidien. Donc on voit pas forcément, mais une femme qui se rend compte que voilà, elle est sous-payée largement, voire très largement par rapport à un homme qui a exactement le même travail qu'elle, le fait d'essayer de faire des démarches des démarches juridiques pour remédier à ça, c'est des combats qu'on voit pas évidemment parce que on va pas s'inventer à tous les coins de rue, mais je pense vraiment qu'il y a des femmes qui se battent contre ça et c'est très important pour moi.
Chloé est passionnée de cinéma. Je suis certaine qu'elle sera sensible au rôle qu'elle fera tenir aux femmes dans son travail de cinéaste. J'ai profité de cette fin d'année, qui est un moment où passent les amis de toujours, pour proposer à Dominique de nous livrer ses réflexions. Femme très indépendante, nous nous connaissons depuis l'adolescence, ado des années 70, le moment où GB, un des premiers gars de Charlie, propose l'an 01. On devait tout arrêter, on devait réfléchir et ça devait pas être triste. L'émancipation des femmes, les combats à mener alors.
Est-ce qu'il faut se battre pour l'émancipation des femmes? Et pour moi, les femmes, je sais pas, moi je me sens émancipée, je vois pas pourquoi on se battrait pour mon émancipation. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vivre pleinement, entièrement, mes idées, ma vie de femme. Donc c'est pas la chose sur laquelle je m'attarderai. Pour moi, en fait, je crois pas qu'on puisse trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde, dans laquelle tout le monde se sentirait bien. Moi, pour l'instant, on est toujours en déséquilibre, toujours en train d'avancer un peu, reculer un peu. Et si je me bats, c'est pas en tant que féministe, c'est pour faire valoir mes droits à moi. D'accord, je suis en tant que femme, mais en tant qu'être humain, c'est vraiment ça. Je suis un être humain au même titre que tous les gens de la planète et je me considère égale à chacun. Donc je me considère égale aux hommes, mais j'ai souvent l'impression que les hommes, eux, ne nous considèrent pas comme égales. Les combats qu'il faut mener, c'est pour qu'il y ait quand même plus d'égalité entre hommes et femmes. Et pour l'instant, ça, pour multiples raisons, ça ne l'est pas. Et ce n'est pas au niveau de la loi. Je ne pense pas que ce soit vraiment au niveau de la loi que ça se fasse. Et je pense que c'est en vivant les choses. Disons, pourquoi en France, c'est les femmes qui se retrouvent les plus pauvres? C'est les femmes qui, avec enfants isolés, qui se retrouvent avec les plus bas salaires, les plus mauvaises conditions de vie? Ça, c'est, pour moi, c'est pas compréhensible. Ça devrait pas exister, ce genre de choses. Pourquoi, alors qu'on dit qu'il y a l'égalité, il doit y avoir l'égalité des salaires, on se retrouve, nous, les femmes, toujours en position inférieure? Et statistiquement, c'est observable. Alors, par exemple, moi, je m'appelle Dominique, je suis à la retraite, j'étais enseignante. Et en tant qu'enseignante, j'ai fait une formation d'institutrice et j'ai eu depuis le début le même salaire que mes collègues hommes. Et, eh bien, on remarque, alors que tous les instituts commencent au même niveau, même indice, on les retrouve à la retraite, bizarrement, étonnamment, il y a une grande disparité de salaire, et les plus hauts salaires, les plus hauts indices.
Ceux qui arrivent en haut de l'échelle le plus rapidement.
Oui, voilà, qui arrivent au dernier échelon, c'est les hommes. Il y a beaucoup plus d'hommes. Et le salaire final, en arrivant à la retraite, en grande majorité, c'est les hommes qui sont les plus favorisés. Pourquoi? On a fait la même chose. Et souvent aussi, il y a le fait que qui, parmi les femmes, font des carrières complètes? Il y en a très peu, et ça compte.
Alors, dans ce cas-là, l'interruption, on pourrait imaginer ou on pourrait rétorquer que si la femme ne gravit pas aussi rapidement, c'est qu'il y a le moment de grossesse, le moment où on élève les enfants. Et là, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire, à pousser, peut-être au niveau de la loi? Là, on parlait des congés parentaux. Et de pousser les hommes à prendre le congé parental. Est-ce qu'il faudrait pousser ce genre de choses pour qu'on arrive à une égalité?
Ben, je ne sais pas. Moi, j'étais mère et j'étais bien contente d'être mère et de pouvoir en profiter. Je ne sais pas. C'est les hommes qui devraient... C'est eux qui ont peut-être moins envie de le faire. Mais je ne sais pas. À mon avis, il y a l'arsenal légal, mais ça ne se fait pas. Donc non, je penserais plutôt pour le fait que les années utilisées à, enfin les années qu'on passe à élever ses enfants soient considérées comme des années où on progresse aussi au niveau du travail. Donc s'il y a des augmentations à faire, ce serait à ce niveau-là. Mais je pense que ce serait plutôt de faire des augmentations automatiques. Et pas lié à des inspections, lié à ceci, cela, ou ainsi de suite. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas l'augmentation pour tout le monde pareil.
Actuellement, ou est-ce que dans ta profession, est-ce que tu as à un certain moment mis en place des projets ou est-ce que tu as milité avec l'idée de faire progresser le droit des femmes, l'égalité ou l'émancipation des femmes?
Bon, là, c'est deux choses, en fait. Bon, est-ce que j'ai milité pour faire avancer le droit des femmes? Oui, j'ai milité dans les années 70. Pour obtenir l'avortement. Donc à cette époque-là, il y a eu quand même des grosses mobilisations. Et avec le planning familial, on avait organisé la possibilité d'avorter. Donc il y avait j'avais participé à ça. Il y avait aussi toutes les grandes mobilisations pour les procès avec Gisèle Halimi. Et puis pour des procès contre les femmes qui avaient avorté d'autres personnes ou qui avaient avorté elles-mêmes.
Donc ça, c'était dans les années 70. Mm-hmm. Après, dans le cadre d'une profession, puisque tu as été enseignante, est-ce que dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui était présent ou dans ta vie quotidienne, peut-être aussi?
Au niveau de la profession, je ne peux pas vraiment dire que... On était quand même... C'est un métier quand même où les femmes ont beaucoup de responsabilités. C'est pas le cas partout. Mais au niveau de la vie quotidienne, oui, bien sûr. Pour moi, j'ai eu deux filles. Pour moi, ce qui était super important, c'est que je leur donne les moyens d'être autonomes, indépendantes, actives et qu'elles puissent prendre des décisions pour construire leur vie, quoi. Donc ça, c'est sûr que j'ai tout fait pour.
Quand on est enseignant, maintenant on parle beaucoup du genre, donc les instituteurs et les institutrices font attention que les histoires ne soient pas des histoires sexistes, qu'il y a même certaines personnes qui travaillent sur des règles de grammaire qui seraient différentes. Alors on n'en était pas là peut-être quand tu étais institutrice, mais est-ce que dans ton travail il y avait quand même cette présence d'égalité et de mettre soit dans les jeux, soit est-ce qu'on se préoccupait déjà du genre ou pas du tout?
Est-ce qu'on se préoccupait du genre? Non, pour moi, j'ai l'impression que dans les années 80 et les années 90, on était quand même très beaucoup plus égalitaire qu'actuellement. Tu parles maintenant, j'ai l'impression d'un retour en force de l'image de la petite fille habillée en rose. C'est revenu en force dans les années 80, dans les années 2000. C'est incroyable. Moi, c'était pas du tout imaginable, quoi, ce genre de choses. Donc pourquoi c'est revenu comme ça? Pourquoi on est revenu dans cette image de la petite fille et du garçon, comment dire, bagarreur et qui va de l'avant, quoi. Non, j'ai jamais eu d'intérêt dans le fait de faire avancer le vocabulaire ou les choses comme ça au niveau sexiste parce que pour moi c'est une bagarre un peu subalterne, de toute façon on travaille avec tous les écrits, l'important c'est de travailler, c'était d'avoir toujours un peu cet esprit critique au niveau de la lecture plutôt que de donner à tout prix des écrits qui soient bien pensants.
C'est quand même intéressant de pouvoir mettre le point sur cette question-là. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on parle du genre, mais c'est maintenant aussi qu'on voit les stéréotypes qui refleurissent, quoi. Puisqu'on est en début d'année, s'il y avait quelque chose à faire avancer, quelque chose qui serait intéressant de travailler, alors on pourrait donner des idées aux politiques, mais ça peut être aussi... à tout un chacun, ça serait quel sujet? Quel sujet paraît important par rapport aux femmes aujourd'hui pour toi?
Moi, je pense que c'est le manque de considération des femmes qu'on a. Le manque de considération de la parole des femmes, je crois que ça se retrouve à tous les niveaux. Donc ça s'est retrouvé, donc on l'a vu dans le mouvement MeToo l'année dernière, que si tant de femmes n'avaient pas dit toutes les agressions qu'elles avaient subies, c'est parce que aller visiter un commissariat pour déposer plainte, et vous comprendrez tout de suite que c'est vraiment une bataille du combattant. Tu fais pas ça tout seul, tu fais pas ça quand t'es mal. Et donc il y a à ce niveau-là, donc on prend pas en considération, on considère que la femme, c'est pas important ce qu'elle dit. Ça se retrouve dans les discussions quand on voit des femmes politiques à la télévision, dans les médias ou n'importe quoi. Il y a toujours une considération moindre pour ce que dit la femme que pour dit un homme, même s'il est bien inférieur, s'il a des choses moins importantes à dire, moins intéressantes. C'est assez répandu, et je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait faire, mais enfin bon, il faut que nous, les femmes, on prenne beaucoup plus confiance en nous, qu'on s'accepte beaucoup plus et qu'on accepte beaucoup plus les autres femmes. C'est ça que je vois, moi. C'est au niveau de la considération de la parole de la femme.
C'était Dominique dans « Il n'y a pas que le 8 mars » de ce début d'année 2019. Elle nous propose de retrouver Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte, vous me combattiez. Faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton.
Elle met en mots la femme libre, Anne Sylvestre. Merci Dominique de nous avoir proposé ce beau texte. Celle qui règne ou se débat, la Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton, tiens, elles se débattent aussi celles qui endossent le gilet de sécurité rendu obligatoire dans tous nos véhicules. Ce qui les a décidées à descendre dans la rue, tout combat que l'on n'a pas mené n'est jamais perdu, nous dira Flore dans l'interview. C'est Flore qui le dit donc. Des revendications faites par deux femmes, revendications féministes, peut-être pas à première vue, quoique.
Bonjour, alors je suis Flore. Moi, j'étais déjà dans la rue au printemps 2018, pendant le mouvement des cheminots, parce que depuis des années, enfin moi, je suis vraiment contre ce système de libéralisme effréné. Donc, ce qui m'a convaincue, au début, j'étais un peu réticente. Je me suis joint à la deuxième manifestation, parce que je suis très écologiste, je suis végane. Et je voulais pas être en contradiction avec mes convictions. Et puis, ce mouvement est tellement multiple que je m'y retrouve dans la lutte contre ce système où tout le monde travaille, consomme pour enrichir vraiment très très peu de personnes qui profitent de l'énergie de tous.
Merci. France, toi, qu'est-ce qui t'a décidé à descendre dans la rue et à participer donc ?
Moi, ce qui m'a décidé, en fait, c'est de vivre dignement de son travail. Parce que moi, je trouve que on travaille et on n'a pas beaucoup de reconnaissance, voilà, financière, et que toujours on paye. Il faut toujours, voilà, quoi qu'on fasse, il y a toujours des choses, voilà, à payer. Et plus on paye, ben moins on en a et moins on peut vivre dignement. Voilà. Alors moi, je suis là depuis le début. Alors au début, bon, on avait bloqué un peu les ronds-points pour les magasins, les grands magasins, et j'avais trouvé ça assez bien, assez intéressant par rapport à la discussion qu'on pouvait avoir avec les gens qui passaient, à qui voilà, ont bloqué le passage.
Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que des gens soient descendus de chez eux, se rassemblent. Et alors, pendant que les gens se rassemblaient, comment ça se passe ? Est-ce que ça discute ? Là, France, tu dis que vous rencontriez des gens. Alors, on discute de quoi ? Est-ce que c'est vraiment, il y a des échanges qui se passent à ce moment-là ?
Oui, bien sûr, il y a des échanges. Les gens, voilà, ils expriment leurs revendications, au niveau de la nature, au niveau des inégalités encore financières, du CAC 40. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comme ça me vient pas trop.
Du coup, j'ai eu un échange avec des gilets jaunes au marché. Moi, je faisais le marché parce que j'achète local. Et donc, ils n'étaient pas de Bourg, ils étaient venus pour la manifestation de samedi. Et on a échangé parce que moi, je prône le revenu universel d'existence. Parce que, j'ai fait le calcul et avec la fraude fiscale de 80 à 100 milliards d'euros par an, on n'en prendrait que 40 et quelques milliards pour 800 euros par personne. Ça résoudrait le problème des personnes handicapées. Je sais de quoi je parle parce que j'ai mon fils qui touche une allocation d'adulte handicapé. Je suis maman seule. Moi, j'ai dû arrêter de travailler. Je suis artiste. C'est une position difficile, que le revenu universel de base, il pourrait protéger beaucoup de personnes. On pourrait le limiter à un certain salaire. Et puis, c'est une revendication des Gilets jaunes aussi, limiter les gros salaires. Parce que c'est indécent. Pour moi, quelqu'un qui travaille dans une mine, il mérite autant un gros salaire que Carlos Ghosn.
Alors oui, effectivement, il y a des propositions, parce que là on voit que tu as fait des calculs. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que chacun venait avec ses propositions ? Est-ce qu'il y avait des moments où justement vous échangez dans vos façons de voir, dans les propositions que vous avez ? Ou est-ce que chacun, dans sa tête, a ses propositions et pense que les autres ont la même ? Est-ce qu'il y avait des échanges là-dessus ?
Moi, j'ai échangé au marché parce qu'ils n'avaient pas pensé au revenu universel. Et après, quand j'en ai parlé, ils m'ont dit « c'est intéressant, on va en parler ». Je voulais juste ajouter qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas assez d'espérance. Et je me dis que personnellement, moi, dans ma vie, dans ma propre vie, tout combat que l'on n'a pas mené n'est jamais perdu. Il faut croire en ce qu'on peut faire. Et je crois que vraiment, les Français, ils ont perdu ça. Et le mouvement des Gilets jaunes, quelque part, il a redonné une énergie. Si des pays l'ont fait, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire.
Et puis moi, je pense aussi, c'est un rêve, quoi. Le fait de pouvoir réaliser un rêve, parce qu'on ne peut pas le réaliser avec avec la vie que je mène, moi, mes rêves, ils s'évaporent, quoi. Ils sont plus là, les rêves que j'avais. nos soucis vont diminuer pour justement élaborer des projets, des voilà.
Alors, dans le cadre de l'émission là qu'on anime, il n'y a pas que le 8 mars, ce qui était intéressant pour moi, c'était de savoir quelle était la place des femmes. Mais alors, la place des femmes à différents endroits, déjà au niveau du nombre, savoir s'il y a beaucoup de femmes dans les gilets jaunes. Est-ce que vous avez remarqué ça?
Oui, je pense que c'est égal, hein. Il y a autant d'hommes qu'autant de femmes.
Quand je suis allée à la réunion... pour la mise en place d'action, c'est une femme qui a pris la parole. Et tout le monde l'a écoutée.
Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on dit souvent que dans les assemblées, les femmes prennent pas la parole, moins la parole, et sont pas entendues. Donc ça veut dire, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la place des femmes, est importante. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est dans les différentes revendications, est-ce que vous sentez qu'il y a des revendications qui sont plus des revendications au niveau de l'égalité du droit ou de l'émancipation, des choses ou dans les conditions de travail, des choses qui seraient plus au niveau d'une lutte féministe, ou si on sent pas ça?
Non, moi j'ai pas du tout ressenti ça, hein, par rapport à la place de la femme. J'ai pas ressenti. J'en ai absolument pas parlé avec les femmes avec qui j'ai échangé.
Moi non plus, j'ai pas ressenti ça. Par contre, sur le groupe Facebook, il y a autant de femmes que d'hommes qui s'expriment. Mais c'est pas le propos interne à cette lutte. Oui. Ça pourrait l'être. Hein. Oui. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait mettre sur la table quand il y aura des réunions plus abouties. Mais pour l'instant, non.
Et qu'est-ce qui faisait descendre les femmes dans la rue? Parce que c'est peut-être par ce biais-là qu'on peut voir aussi quelles sont, de voir leurs conditions. Alors, c'est la condition des femmes, tu parlais tout à l'heure, hors micro, quand on discutait d'une situation où, quand on a à charge un enfant qui a eu des difficultés ou qui a encore des difficultés, qu'est-ce que tu peux dire finalement? Qu'est-ce qu'il y avait? Tu me disais tout à l'heure, c'est ça qui a déterminé.
Oui, c'est ça qui a déterminé que je rejoigne le mouvement. Parce qu'en fait, moi, je suis femme seule avec un enfant qui a des problèmes de santé, qui subit des opérations régulièrement. Et en fait, moi, j'ai perdu mon boulot il y a déjà longtemps. Et on n'a pas de statut, j'aurai jamais de retraite. La MDPH, qui a des moyens très limités, m'a enlevé la tierce personne quand il a été majeur. J'ai pas de compensation. Alors, je me dis, moi, je suis séparée de son papa qui travaille et qui aura une retraite. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes seules. Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent et qui... des gens, des foyers où il y a les deux personnes qui travaillent et qui ne s'y retrouvent pas. Et c'est pour ça que je parlais du revenu universel. Je pense qu'aussi, on passe de moins en moins de temps avec ses enfants. Les enfants ont besoin du temps de leurs parents. Et avec le revenu universel, les gens seraient... on pourrait partager le travail. Il y a sûrement des femmes ou des hommes qui travailleraient à temps réduit. Et les enfants auraient des parents à la maison. Et c'est vraiment équilibrant. Et puis moi, je voulais rappeler que les bases de la démocratie en Grèce, c'était le tirage au sort. Alors, bon, à l'époque, il n'y avait pas de femmes. Mais par contre, on pourrait très bien mettre une proportionnelle de tirage au sort par rapport à la population française avec la parité, un homme, une femme. Parce que si on attend des politiques qui aient la parité, on sait qu'ils sont très machos, donc ça n'arrivera jamais. Donc c'est le moment où jamais, moi, je prône la 6e République. On a tenté dans beaucoup de villes les conseils citoyens, les gens se débrouillent très bien. On veut faire croire aux Français qu'ils sont immatures, on les traite tout le temps comme des enfants de 5 ans. On peut le faire.
Est-ce que du coup, on pourrait dire que dans ce mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas une tendance féministe, mais qu'en fait, il y a plein de raisons aux femmes de descendre dans la rue et d'être là?
Oui, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons parce que les femmes, elles font partie de la société et que notre société, elle est en souffrance. Donc ce mouvement, il est né d'une colère, mais je pense qu'il va grandir d'espoir et de plein d'idées qui fourmillent. En tout cas, je l'espère.
Oui, et puis les femmes, elles ont plein d'idées et en plus des idées très pacifiques, plein de douceur. Alors je dis pas que les hommes en ont pas, hein, mais donc je pense de Et puis aussi par rapport à nos enfants, où on a envie qu'ils aient une vie plus...
Oui, une vie plus, une vie moins dure, une vie qui permet de vivre dignement de son travail, ne serait-ce que ça. Des idées pour une autre organisation de la société, une représentation démocratique différente, égalitaire entre les gens, égalitaire aussi entre hommes et femmes. Merci à France et à Flore de nous faire partager votre réflexion. Les bonnes nouvelles sont toujours bonnes à prendre. En France, une prise de parole dans le journal Le Monde, un état des lieux de la place des femmes médecins dans les hôpitaux. Le monde hospitalier est dirigé par les hommes alors qu'il vit grâce au travail des femmes, agents de service, infirmières, cadres, aides-soignantes, médecins généralistes. Et alors que les femmes représentent plus de la moitié, 52% des médecins hospitaliers en 2018, eh bien, en 2016, les femmes ne représentaient toujours que 19% du corps le plus élevé à occuper les postes des professionnels des universités, des praticiens hospitaliers et des postes de pouvoir à l'hôpital, que ce soit chef de service ou chef de pôle. Eh bien, pour dénoncer ça et mettre fin à cette anomalie, à peu près 130 médecins demandent dans une tribune publiée le vendredi 29 décembre dernier dans Le Monde que soient prises toutes les mesures nécessaires à favoriser une ascension satisfaisante des femmes à ces postes. Et en espérant que se manifeste et que cette parole ébranle cette hiérarchie et se concrétise par des changements. À l'étranger maintenant, une autre bonne nouvelle, en Australie, dépénalisation de l'avortement. Dans l'état de Queensland, en Australie, l'avortement vient de sortir du code pénal. Les deux principaux partis politiques locaux ont laissé leurs députés voter selon leur conscience. Et parmi les évolutions du droit, l'avortement est désormais légal jusqu'à 22 semaines, ce qui est très important et possible par la suite avec l'accord de deux médecins. Un accès sécurisé sera également assuré aux centres qui pratiquent les IVG pour que les nombreux et nombreux opposants à l'avortement ne puissent plus terroriser les patientes et le personnel médical. Qu'on se le dise, les avancées en matière de droit des femmes à déposer de leur corps existent et ça avance. Chut, chut, culturels. Claire Diterzi. Elle revient à Bourg avec le nouveau spectacle qu'elle a écrit et mis en scène et qu'elle tourne depuis un an. Vendredi prochain, le vendredi 11 janvier, au Théâtre de Bourg, ce ne sera pas un récital mais un spectacle de théâtre musical. Sur le plateau, il y aura un fil de feriste, un comédien, un contre-ténor, une chanteuse sorcière et 6 percussionnistes. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, un jour, décide de monter dans un arbre pour ne plus jamais en redescendre. Ce n'est pas sans rappeler le roman d'Italo Calvino, Baron Perché. Héros, contre-héros, sorcière aimée, voilà pour les personnages de cette fable. C'est un véritable voyage que nous offre la dame, voyage dans les sons, les styles musicaux, les pays. Le propos est un manifeste contre les ravages que l'homme inflige à son environnement, et cette création abolit les frontières entre l'art vocal baroque, l'électropop, la musique contemporaine et la chanson. C'est Claire Diterzi qui nous le dit. C'est une femme courageuse, Claire Diterzi, courageuse dans le choix de ses propositions artistiques. L'émancipation dont il est question, lit-on sur son site internet, c'est celle d'une chanteuse qui fait fi des règles de l'étiquette et du candidaton, d'une artiste frondeuse et libérée qui, comme d'autres abattent des arbres, n'a cesse de faire tomber les frontières et les préjugés séparant les disciplines et les genres, avec humour et toujours une folle détermination. Eh ben pour ma part, j'attends avec impatience l'embarquement qui a lieu, je le rappelle, le vendredi 11 janvier 2019 à 20h au théâtre. Un extrait du spectacle. Thank you. C'est bien le vendredi 11 janvier que Claire Diterzy sera sur les planches du théâtre. Voilà, notre émission touche à sa fin. Vous venez d'écouter Il n'y a pas que le 8 mars, une émission animée aujourd'hui par Joël. Merci à Pauline, notre technicienne, pour la réalisation. Merci aux amis et aux rencontres, Dominique, Chloé, France et Flore. Vous pouvez réécouter l'émission Il n'y a pas que le 8 mars, lundi en 15, donc le 21 janvier, ou alors en allant sur le site www.radio-b.fr. Et je termine en forme de vœux, en reprenant cette phrase de Pinard Selex dont je vous parlerai bientôt. Les graines semées par les réflexions et actions féministes depuis de longues années ont germé et elles ont fleuri. Voilà, on se quitte sur une musique de Tracy Dessa. Bonne soirée sur Radio B. Tolerate, face, fate, to debate.